Aristote, Éthique à Eudème, traduction Jules Barthélemy Saint-Hilaire. Livre 2 de la Vertu. Chapitre 1 à 5 compris. Chapitre 1er. Sommaire. Considération psychologique, idée générale de la vertu. La vertu est l'œuvre propre de l'âme. Définition dernière du bonheur. Justification de cette définition. Deux parties distinctes dans l'âme, l'une douée de raison et l'autre pouvant obéir à la raison. Distinction analogue des vertus en vertu intellectuelle et vertu morale. Définition de la vertu. Paragraphe 1. Après les théories qui précèdent, il faut, je le répète, prendre un autre point de départ pour traiter ce qui va suivre. Les biens de l'homme, quels qu'ils soient, sont ou en dehors de l'âme ou dans l'âme. Et les plus précieux sont les biens de l'âme. Division que nous avons établie même dans nos ouvrages exotériques. Car la sagesse, la vertu et le plaisir sont dans l'âme. Et ce sont là les trois seules choses qui pour tout le monde paraissent être, soit séparément, soit toutes ensemble, le but final de la vie. Or, parmi les éléments de l'âme, les uns sont de simples facultés ou des puissances. Les autres sont des actes et des mouvements. Paragraphe 2. Admettons d'abord ces principes, et, en ce qui concerne la vertu, reconnaissons quelle est la meilleure disposition, faculté ou puissance des choses, dans toutes les occasions où il doit être fait un usage et une œuvre quelconque de ces choses. C'est là un fait qu'on peut vérifier par l'induction. Et cette règle s'étend à tous les cas possibles. Par exemple, on peut parler de la vertu d'un manteau parce qu'il y a une certaine œuvre, un certain usage de ce manteau. Et la meilleure disposition que ce manteau puisse avoir est ce qu'on peut appeler sa vertu propre. On en dirait autant d'un navire, d'une maison et de tout autre objet utile. Par conséquent, on doit pouvoir appliquer ceci à l'âme, puisqu'elle a également son œuvre spéciale. Paragraphe 3. Remarquons que l'œuvre est d'autant meilleure que la faculté est meilleure, et que le rapport des facultés entre elles et à l'égard les unes des autres est également le rapport des œuvres qu'elles produisent et qui en sortent. La fin de chacune d'elles, c'est l'œuvre qu'elles ont à produire. Paragraphe 4. Il s'ensuit, évidemment, que l'œuvre produite vaut mieux que la faculté qui la produit, car la fin est ce qu'il y a de mieux en tant que fin. Et nous avons admis que la fin est le meilleur et dernier objet en vue duquel se fait tout le reste. Il est donc clair, je le répète, que l'œuvre est au-dessus de la faculté et de la simple aptitude. Paragraphe 5. Mais le mot œuvre a deux sens qu'il faut bien distinguer. Il y a des choses où l'œuvre produite se sépare et diffère de l'usage qu'on fait de la faculté qui produit cette œuvre. Ainsi, pour l'architecture, la maison qui est l'œuvre est distincte de la construction qui est l'usage et l'emploi de l'art. Pour la médecine, la santé ne se confond pas avec le traitement et la médication qui la procure. Au contraire, pour d'autres choses, l'usage de la faculté est l'œuvre même. Et, par exemple, la vision pour la vue ou la pure théorie pour la science mathématique. par une suite nécessaire pour les choses où l'usage est l'œuvre, l'usage vaut mieux que la simple faculté. Paragraphe 6. Tous ces principes étant posés comme on vient de le voir, nous disons que l'œuvre est la même, et pour la chose, et pour la vertu de cette chose. Mais cette œuvre n'a pas lieu de part et d'autre de la même façon. Et par exemple, le soulier peut être l'œuvre et de la cordonnerie en général, et du cordonnage en particulier. S'il y a tout ensemble, et vertu de l'art, de la cordonnerie, et vertu du bon cordonnier, l'œuvre qui en résulte est un bon soulier. Même observation pour toute autre chose qu'on pourrait citer. Paragraphe 7. Supposons encore que l'œuvre propre de l'âme soit de faire vivre, et que l'emploi de la vie soit la veille avec toute son activité, puisque le sommeil n'est qu'une sorte d'inaction et de repos. Par suite, comme il faut nécessairement que l'œuvre de l'âme et celle de la vertu de l'âme soient une seule et même œuvre, on doit dire qu'une vie honnête et bonne est l'œuvre spéciale de la vertu. C'est donc là le bien final et complet que nous cherchions et que nous appelions le bonheur. Paragraphe 8. Ceci ressort de tous les principes que nous avons établis. Le bonheur, avons-nous dit, est le bien suprême. Mais les fins que l'homme se propose sont toujours dans son âme comme ils sont les plus précieux de ses biens. Et l'âme elle-même n'est que la faculté ou l'acte. Mais, comme l'acte est au-dessus de la simple disposition à le faire, que le meilleur acte appartient à la meilleure faculté, et que la vertu est la meilleure de toutes les manières d'être, il s'ensuit que l'acte de la vertu est ce qu'il y a de meilleur pour l'âme. Paragraphe 9. D'autre part, comme le bonheur était à nos yeux le bien suprême, nous pouvons conclure que le bonheur est l'acte d'une âme vertueuse. Mais en outre, le bonheur était quelque chose de final et de complet. Et comme la vie peut être complète et incomplète, ainsi que la vertu, qui est ou entière ou partielle, et comme l'acte des choses incomplètes est incomplet, on doit définir le bonheur, l'acte d'une vie complète, conforme à la complète vertu. Paragraphe 10. Que nous ayons bien analysé la nature du bonheur et que nous en ayons donné la vraie définition, nous en avons pour gage les opinions que chacun de nous s'en fait. Ne confondons pas sans cesse réussir, bien agir et bien vivre avec être heureux. Et chacune de ces expressions n'indique-t-elle pas un usage et un acte de nos facultés, la vie et la pratique de la vie? La pratique n'implique-t-elle pas toujours l'usage des choses? Le forgeron, par exemple, fait le mors du cheval. Et c'est le cavalier qui s'en sert. Ce qui prouve encore l'exactitude de notre définition, c'est qu'on ne croit pas qu'il suffise pour être heureux de l'être pendant un jour, ni qu'un enfant puisse être heureux, ni même qu'on le soit pendant toute sa vie. Solon avait bien raison de dire qu'on ne doit pas appeler quelqu'un heureux tant qu'il vit, et qu'il faut attendre la fin de son existence pour juger de son bonheur, car rien d'incomplet n'est heureux puisqu'il n'est pas entier. Paragraphe 11. Remarquez encore les louanges qu'on adresse à la vertu pour les actes qu'elle a inspirés, et les éloges unanimes dont les actes accomplis sont seuls l'objet. Ce sont les vainqueurs que l'on couronne, ce ne sont pas ceux qui auraient pu vaincre, mais qui n'ont pas vaincu. Ajoutez enfin que c'est d'après les actes qu'on juge le caractère d'un homme. Paragraphe 12. Mais pourquoi, dira-t-on, n'accorde-t-on pas des louanges et de l'estime au bonheur? C'est que tout le reste des choses se fait uniquement en vue de lui, soit que ces choses s'y rapportent directement, soit qu'elles en fassent partie. Voilà pourquoi trouver quelqu'un heureux et le louer ou faire son éloge en l'estimant sont des choses fort différentes. L'éloge, à proprement dire, s'adresse à chacune des actions particulières de la personne. La louange avec l'estime s'applique à son caractère général. Mais pour déclarer un homme heureux, on ne doit regarder qu'au but et à la fin même de toute sa vie. Paragraphe 13. Ces considérations éclaircissent une question assez bizarre que parfois on soulève. Pourquoi, dit-on, les bons ne sont-ils pas, pendant la moitié de leur existence, meilleurs que les méchants, puisque tous les hommes dans le sommeil se ressemblent? C'est que le sommeil, peut-on répondre, est l'inaction de l'âme et non pas l'acte de l'âme. Paragraphe 14. Voilà encore pourquoi, si l'on considère quelque autre partie de l'âme, et par exemple la partie nutritive, la vertu de cette partie n'est pas une partie de la vertu entière de l'âme, pas plus que n'y est contenue la vertu du corps. C'est la partie nutritive qui, durant le sommeil, agit le plus énergiquement, tandis que la sensibilité et l'instinct y sont imparfaits et à peu près éteints. Mais si alors il y a encore quelques mouvements, les rêves même des bons valent mieux que ceux des méchants, à moins de maladie ou de souffrance. Paragraphe 15. Tout ceci nous mène à étudier l'âme, car la vertu appartient essentiellement à l'âme et non pas par simple accident. Mais comme c'est la vertu accessible à l'homme que nous voulons connaître, posons d'abord qu'il y a dans l'âme deux parties qui sont douées de raison, bien qu'elles n'en soient pas douées l'une et l'autre de la même manière. L'une étant faite pour commander, l'autre pour obéir à celle-là, et sachant naturellement l'écouter. Quant à cette autre partie de l'âme, qui peut passer pour irraisonnable à un autre titre, nous la laissons de côté pour le moment. Paragraphe 16. Peu nous importe également de savoir si l'âme est divisible ou si elle est indivisible, tout en ayant des puissances diverses et les facultés qu'on vient de dire, de même que dans un objet courbe, le convexe et le concave sont tout à fait inséparables, comme le sont aussi dans une surface, le droit et le blanc. Cependant, le droit ne se confond pas avec le blanc, ou du moins, il n'est le blanc que par accident, et il n'est pas la substance d'une même chose. Paragraphe 17. De même, nous ne nous occuperons pas davantage de telle autre partie de l'âme s'il y en a une, et par exemple de la partie purement végétative. Les parties que nous avons énumérées sont exclusivement propres à l'âme humaine, et par suite, les vertus de la partie nutritive et de la partie concupiscible n'appartiennent pas à l'homme véritablement. Car du moment qu'un être est homme, il faut qu'il y ait en lui raison, commandement et action. Mais la raison ne commande pas à la raison, elle ne commande qu'à l'appétit et aux passions. C'est donc une nécessité que l'âme de l'homme ait ses diverses parties. Paragraphe 18. Et de même que la bonne disposition du corps et sa santé consistent dans les vertus spéciales de chacune de ses parties, de même, la vertu de l'âme, en tant qu'elle est la vraie fin de l'homme, consiste dans les vertus de chacune de ses parties différentes. Paragraphe 19. Il y a deux sortes de vertus, l'une morale et l'autre intellectuelle. Car nous ne louons pas seulement les gens parce qu'ils sont justes, nous les louons aussi parce qu'ils sont intelligents et sages. Plus haut, nous avons dit que la vertu ou les œuvres qu'elle inspire sont dignes de louange. Et si la sagesse et l'intelligence n'agissent pas elles-mêmes, elles provoquent du moins les actes qui viennent d'elles seules. Paragraphe 20. Or, les vertus intellectuelles sont toujours accompagnées de la raison, et par conséquent, elles appartiennent à la partie raisonnable de l'âme, laquelle doit commander au reste des facultés, en tant que c'est elle qui est douée de raison. Au contraire, les vertus morales appartiennent à cette autre partie de l'âme qui, sans avoir la raison en partage, est faite par nature pour obéir à la partie qui possède la raison. Car nous ne disons pas, en parlant du caractère moral de quelqu'un, qu'il est sage ou habile. Nous disons qu'il est, par exemple, doux ou hardi. Paragraphe 21. On le voit donc, ce que nous avons d'abord à faire, c'est d'étudier la vertu morale, de voir ce qu'elle est, et quelles en sont les parties, car c'est là que notre sujet nous conduit, et d'apprendre par quels moyens elle s'acquiert. Notre méthode sera celle qu'on prend toujours quand on a déjà un sujet précis de recherche, c'est-à-dire qu'en partant de données vraies mais peu claires, nous tâcherons d'arriver à des choses vraies et claires tout ensemble. Paragraphe 22. Nous sommes ici à peu près dans le cas de quelqu'un qui dirait que la santé est l'état le meilleur du corps et qui ajouterait que Coriscus est le plus hâlé de tous les hommes qui sont en ce moment sur la place publique. Il y aurait certainement dans l'une et l'autre de ces assertions quelque chose qui nous échapperait. Mais cependant, pour savoir précisément ce que sont ces deux idées, l'une par rapport à l'autre, il est bon d'en avoir préalablement cette vague notion. Paragraphe 23. Nous supposerons en premier lieu que le meilleur état est produit par les meilleures choses, et que ce qui peut être fait de mieux pour chaque chose vient toujours de la vertu de cette chose. Ici, par exemple, les travaux et les aliments les meilleurs sont ceux qui produisent le plus parfait état du corps. Et, à son tour, le parfait état du corps permet qu'on se livre le plus activement aux travaux de tout genre. Paragraphe 24. On pourrait ajouter que l'état d'une chose, quel qu'il soit, se produit et se perd par les mêmes objets pris de telle ou telle façon, et qu'ainsi, la santé se produit et se perd selon l'alimentation qu'on prend, selon l'exercice qu'on fait et selon les moments. Au besoin, l'induction prouverait tout cela bien évidemment. De toutes ces considérations, on pourrait conclure d'abord que la vertu est moralement cette disposition particulière de l'âme qui est produite par les meilleurs mouvements et qui, d'autre part, inspire les meilleurs actes et les meilleurs sentiments de l'âme humaine. Ainsi, c'est par les mêmes causes, agissant dans un sens ou dans l'autre, que la vertu se produit et qu'elle se perd. Paragraphe 25. Quant à son usage, elle s'applique aux mêmes choses par lesquelles elle s'accroît et se détruit, et relativement auxquelles elle donne à l'homme la meilleure disposition qu'il puisse avoir. La preuve, c'est que la vertu et le vice se rapportent l'un et l'autre aux plaisirs et aux douleurs. Car les châtiments moraux, qui sont comme des remèdes fournis ici par les contraires, ainsi que tous les autres remèdes, viennent de ces deux contraires qu'on appelle la douleur et le plaisir. Chapitre 2. Sommaire. De la vertu morale. C'est un résultat de l'habitude dont les êtres animés sont capables. Des passions, des facultés qu'elles supposent et des manières d'être qu'elles causent. Paragraphe 1. Évidemment, la vertu morale se rapporte à tout ce qui peut causer ou plaisir ou douleur. Le moral, ainsi que le mot seul l'indique, vient des mœurs, c'est-à-dire des habitudes. Or, l'habitude se forme peu à peu par suite d'un mouvement qui n'est pas naturel et inné, mais qui se répète fréquemment. Et il en est de même pour les actes que pour le caractère. C'est là un phénomène que nous ne voyons point dans les êtres inanimés. On aurait beau jeter 1000 fois une pierre en l'air, elle n'y montera jamais sans la force qui la pousse. Paragraphe 2. Ainsi, la moralité, le caractère moral de l'âme, relativement à la raison qui doit toujours commander, sera la qualité spéciale de cette partie qui n'est que capable d'obéir à la raison. Paragraphe 3. Disons donc tout de suite à quelle partie de l'âme se rapporte ce qu'on appelle les mœurs ou les habitudes. Les mœurs se rapporteront à ces facultés de passion d'après lesquelles on dit des hommes qu'ils sont capables de telles ou telles passions, et à ces états de passion qui font qu'on désigne les gens du nom de ces passions mêmes, selon qu'ils les ressentent ou qu'ils restent impassibles. Paragraphe 4. On pourrait pousser la division plus loin encore et l'appliquer pour chaque cas spécial aux passions, aux puissances qu'elles supposent et aux manières d'être qu'elles déterminent. J'appelle passion les sentiments tels que la colère, la peur, la honte, le désir, et toutes ces affections qui ont en général pour conséquence un sentiment de plaisir ou de douleur. Paragraphe 5. Il n'y a pas là de qualité de l'âme à proprement parler, et l'âme y est toute passive. La qualité qui caractérise le sujet se trouve seulement dans les puissances ou facultés qu'il possède. J'entends par puissance celles qui font dénommer les individus selon qu'ils agissent en éprouvant telles ou telles passions et qui font qu'on les appelle par exemple colère, insensible, amoureux, modeste, impudent. Paragraphe 6. Enfin, j'entends par manière d'être morale toutes les causes qui font que ces passions ou sentiments sont conformes à la raison ou y sont contraires, comme le courage, la sagesse, la poltronnerie, la débauche, etc. Chapitre 3. Sommaire. Du rôle des milieux en toutes choses. La vertu morale est un milieu. Table de quelques vertus et des deux vices extrêmes. Explication de cette table. Analyse de quelques caractères. Il y a des passions et des vices où il n'y a point à distinguer le plus et le moins et qui sont blâmables par eux seuls. Paragraphe 1. Ceci posé, il faut se rappeler que dans tout objet continu et divisible, on peut distinguer trois choses. Un excès, un défaut et un milieu. Ces distinctions peuvent être considérées soit dans leur rapport aux choses elles-mêmes, soit par rapport à nous. Et, par exemple, on pourrait les étudier dans la gymnastique, la médecine, l'architecture, la marine, ou dans tel autre développement de notre activité, qu'il soit scientifique ou non scientifique, qu'il soit suivant les règles de l'art ou contre ces règles. Paragraphe 2. Le mouvement, en effet, est un continu, et l'action n'est qu'un mouvement. En toute chose, c'est le milieu par rapport à nous qui est ce qu'il y a de mieux, et c'est lui que nous prescrivent à la fois la science et la raison. Partout, le milieu a cet avantage de produire la meilleure manière d'être. Et l'on peut s'en convaincre à la fois et par l'induction et par le raisonnement. Ainsi, les contraires se détruisent réciproquement, et les extrêmes sont tout ensemble et opposés entre eux, et opposé au milieu, car ce milieu est l'un et l'autre des deux extrêmes relativement à chacun d'eux. Et, par exemple, l'égal est plus grand que le plus petit, et plus petit que le plus grand. Paragraphe 3. Par une conséquence nécessaire, la vertu morale doit consister dans certains milieux et dans une position moyenne. Il reste donc à rechercher quelle moyenne est précisément la vertu et à quel milieu elle se rapporte. Paragraphe 4. Pour en mettre des exemples sous les yeux, tirons-les du tableau suivant où nous pouvons les étudier. Irascibilité, impassibilité, douceur. Témérité, lâcheté, courage. Impudence, embarras, modestie. Débauche, insensibilité, tempérance. Haine, anonyme, indignation vertueuse. Gain, perte, justice. Prodigalité, avarice, libéralité. Fanfaronnade, dissimulation, véracité. Flatterie, hostilité, amitié. Complaisance, égoïsme, dignité. Mollesse, grossièreté, patience. Vanité, bassesse, magnanimité. Dépenses fastueuses, lésinerie, magnificence. Fourberie, niaiserie, prudence. Paragraphe 5. Toutes ces passions ou des passions analogues se retrouvent dans les âmes, et tous les noms qu'on leur donne sont tirés soit de l'excès, soit du défaut que chacune présente. Ainsi, l'homme irascible est celui qui se laisse emporter à la colère plus qu'il ne faut, ou plus vite qu'il ne faut, ou dans plus de cas qu'il ne convient. L'homme impassible est celui qui ne sait pas s'emporter contre qui, quand et comme il faut. Le téméraire est celui qui ne craint pas ce qu'il faut craindre, quand il faut et comme il faut. Le lâche est celui qui craint ce qu'il ne faut pas craindre, quand il ne faut pas et comme il ne faut pas. Paragraphe 6. Et de même pour le débauché et pour celui dont les désirs dépassent toute mesure, toutes les fois qu'il peut s'y abandonner sans frein. Tandis que l'insensible est celui qui n'a pas même les désirs qu'il est bon d'avoir et qu'autorise la nature, mais qui ne sent pas plus qu'une pierre. Paragraphe 7. L'homme de gain est celui qui ne cherche qu'à gagner de quelque façon que ce soit. L'homme, qu'on pourrait appeler homme de perte, est celui qui ne sait gagner sur rien, ou qui, du moins, ne fait que les gains les plus rares. Le fanfaron est celui qui se vante d'avoir plus qu'il n'a. Le dissimulé est celui qui feint, au contraire, d'avoir moins qu'il ne possède. Paragraphe 8. Le flatteur est celui qui loue les gens plus qu'ils ne le méritent. L'homme hostile est celui qui les loue moins qu'il ne faut. La complaisance recherche avec trop de soin le plaisir d'autrui. Et l'égoïsme consiste à ne le chercher que fort peu et avec peine. Paragraphe 9. Celui qui ne sait jamais supporter la douleur, même quand il serait mieux de la supporter, est un homme mou. Celui qui supporte toutes les souffrances sans distinction n'a pas précisément de nom spécial, mais par la métaphore on peut l'appeler un homme dur, grossier, est fait pour endurer la misère et le mal. Paragraphe 10. Le vaniteux est celui qui prétend plus qu'il ne mérite. L'homme au cœur bas est celui qui s'attribue moins qu'il ne lui revient. Le prodigue est celui qui est excessif dans toute espèce de dépense. Le ladre sans libéralité est celui qui, par un défaut opposé, ne sait en faire aucune. Paragraphe 11. Cette observation s'applique encore à ceux qu'on appelle des avares et des fastueux. Celui-ci va fort au-delà du convenable, et l'autre reste fort en deçà. Le fourbe est celui qui cherche toujours à gagner plus qu'il ne doit. Le niais est celui qui ne sait pas même gagner là où il doit gagner légitimement. Paragraphe 12. L'envieux est celui qui s'afflige des prospérités d'autrui plus souvent qu'il ne faut. Car on a beau être digne de son bonheur, ce bonheur même excite la douleur des envieux. Le caractère contraire à celui-là n'a pas reçu de nom particulier, mais c'est de tomber dans cet autre excès, de ne jamais s'affliger, même de la prospérité des gens qui sont indignes de leur succès, et de se montrer facile en ceci, comme les gourmands le sont en fait de nourriture. L'autre caractère extrême est implacable à cause de la haine qui le dévore. Paragraphe 13. Du reste, il serait bien inutile de définir ainsi chacun des caractères et de démontrer que ces traits ne sont point en eux accidentels, car aucune science, ni théorique, ni pratique, ne dit, ni ne fait rien d'analogue pour compléter ces définitions. Et l'on ne prend jamais ces précautions que contre le charlatanisme logique des discussions. Paragraphe 14. Nous nous bornerons donc à ce que nous venons de dire, et nous donnerons des explications plus détaillées et plus précises lorsque nous parlerons des manières d'être morales opposées les unes aux autres. Quant aux espèces diverses de toutes ces passions, elles tirent leur nom des différences que présentent ces passions mêmes par l'excès ou de durée ou d'intensité ou de tel autre des éléments qui constituent les passions. Paragraphe 15. Je m'explique. On appelle irascible celui qui éprouve le sentiment de la colère plus vite qu'il ne faut. On appelle dur et cruel celui qui le porte trop loin. Rancunier, celui qui aime à garder sa bile. Violent et injurieux, celui qui va jusqu'au sévice que la colère amène. Paragraphe 16. On dira des gens qu'ils sont gourmands ou gloutons ou ivrognes, lorsqu'en toute espèce de jouissance provoquée par les aliments, ils se laissent emporter à de grossiers appétits que réprouve la raison. Paragraphe 17. Il ne faut pas oublier de remarquer aussi que certaines dénominations de vices ne viennent pas de ce qu'on prend les choses de telle ou telle manière, ni de ce qu'on les prend avec plus d'emportement qu'il ne convient. Ainsi, l'on n'est pas adultère parce que l'on fréquente plus qu'il ne faut les femmes mariées, et ce n'est pas en ce sens qu'on entend l'adultère. Mais l'adultère lui-même est une perversité, et il suffit d'un seul acte pour qu'on puisse flétrir de ce nom et la passion qui mène à ce crime et le caractère de celui qui s'y livre. Paragraphe 18. Remarque analogue pour l'insolence qui pousse à l'outrage. Mais on trouve, même dans cette circonstance, des motifs de disculper. Et l'on dit que l'on a cohabité avec la femme, au lieu de dire qu'on a commis un adultère. On dit qu'on ne savait pas qui était la femme qu'on aimait, et qu'on a été forcé de faire ce qu'on a fait. On allègue de même pour l'insolence qu'on a bien pu frapper quelqu'un, mais qu'on ne l'a pas outragé. Et l'on trouve des excuses analogues pour toutes les autres fautes qu'on peut commettre. Chapitre 4. Sommaire. Des deux parties de l'âme et de la division correspondante des vertus en vertu intellectuelle et vertu morale. La vie morale tout entière consiste dans les plaisirs et les peines que l'homme éprouve et dans le choix qu'il sait faire des unes et des autres. Paragraphe 1. Après toutes ces considérations, il faut dire que l'âme ayant deux parties différentes, les vertus aussi se divisent selon qu'elles appartiennent à ces deux parties distinctes. Les vertus de la partie qui possède la raison sont les vertus intellectuelles. Leur objet, c'est la vérité. Et elles s'occupent soit de la nature des choses, soit de leur production. Les autres vertus sont propres à la partie de l'âme qui est irrationnelle et qui n'a que l'instinct en partage. Car toutes les parties de l'âme ne possèdent pas l'instinct, bien que l'âme soit divisée. Paragraphe 2. Nécessairement, on le sait, le caractère moral est mauvais ou bon, selon qu'on recherche ou qu'on fuit certains plaisirs ou certaines peines. Cela même ressort, évidemment, des divisions que nous avons établies entre les passions, les facultés et les manières d'être morales. Les facultés et les manières d'être se rapportent aux passions. Et les passions elles-mêmes ne sont définies et déterminées que par le plaisir et la douleur. paragraphe 3. Il résulte de là, et des principes antérieurement posés, que toute vertu morale est relative aux peines et aux plaisirs que l'homme éprouve. Car le plaisir ne peut jamais s'adresser qu'aux choses qui rendent naturellement l'âme humaine pire ou meilleure, et il ne se trouve qu'en elle. Les hommes ne sont appelés vicieux qu'à cause de leur jouissance et de leur douleur, parce qu'ils poursuivent et fuient les unes et les autres autrement qu'il ne faut, ou bien celles qu'il ne faut pas. Ainsi, tout le monde convient aisément que les vertus consistent dans une certaine apathie, un certain calme à l'égard des plaisirs et des peines, et que les vices consistent dans des dispositions toutes contraires. Chapitre 5. Sommaire. De la vertu morale. Elle est toujours un milieu qui est tantôt dans le plaisir, tantôt dans la douleur. Difficulté de bien reconnaître l'excès et le défaut d'après lequel on doit caractériser le vice contraire à la vertu. Paragraphe 1. Après avoir reconnu que la vertu est en nous cette manière d'être morale qui nous fait agir le mieux possible et qui nous dispose le plus complètement à bien faire, après avoir reconnu que le bien suprême dans la vie est ce qui est conforme à la droite raison, c'est-à-dire de ce qui tient le juste milieu entre l'excès et le défaut relativement à nous, il faut nécessairement reconnaître aussi que la vertu morale, pour chaque individu en particulier, est un certain milieu ou un ensemble de certains milieux en ce qui concerne ses plaisirs et ses peines, ou les choses agréables et douloureuses qu'il peut ressentir. Paragraphe 2. Parfois, le milieu ne sera que dans les plaisirs où se trouvent aussi l'excès et le défaut. Quelquefois, il ne sera que dans les peines, et quelquefois, dans les deux ensemble. L'homme qui a un excès de joie a par cela même un excès de plaisir, et celui qui a un excès de peine pêche par un excès contraire. Ces excès, d'ailleurs, peuvent être ou absolus ou relatifs à une certaine limite qu'il ne devrait pas franchir. Et c'est, par exemple, quand on éprouve ses sentiments autrement que tout le monde, tandis que l'homme bien organisé et celui qui sent les choses comme il faut les sentir. Paragraphe 3. D'autre part, comme il y a un certain état moral qui fait que ceux qui sont en cet état peuvent être, pour une seule et même chose, ou dans l'excès ou dans le défaut, il y a nécessité, ces extrêmes étant contraires, et l'un à l'autre réciproquement, et au milieu qui les sépare, que ces états soient également contraires entre eux et contraires à la vertu. Paragraphe 4. Il arrive cependant tantôt que les oppositions extrêmes sont toutes deux très évidentes et tantôt que c'est l'opposition par excès et quelquefois aussi l'opposition par défaut qui l'est davantage. Paragraphe 5. La cause de ces différences, c'est que l'on ne s'adresse pas toujours aux mêmes nuances d'inégalité ou de ressemblance par rapport au milieu, mais que parfois on passe plus aisément de l'excès et parfois du défaut à l'état moyen, et que le vice paraît d'autant plus contraire au milieu qu'il en est plus éloigné. C'est ainsi que, pour ce qui regarde le corps, l'excès de fatigue vaut mieux pour la santé que le défaut d'exercice, et qu'il est plus voisin du milieu. Tandis que, pour l'alimentation, au contraire, c'est le défaut plus que l'excès qui se rapproche du milieu. Paragraphe 6. Par suite aussi, les habitudes qu'on choisit à son gré, et, par exemple, les habitudes d'exercice gymnastique, contribuent plus à la santé dans l'un et l'autre sens, soit qu'on prenne un peu trop de fatigue, soit qu'on reste un peu au-dessous de ce qu'il faudrait. L'homme qui sera contraire au juste milieu sous ce rapport et qui résistera à la raison sera d'une part celui qui ne prend aucune fatigue et n'accepte l'exercice d'aucune des deux façons que je viens d'indiquer, et d'autre part celui qui se livre à toutes les langueurs de la mollesse et n'attend jamais la fin. Paragraphe 7. Ces diversités viennent de ce que la nature n'est pas en toute chose également éloignée du milieu, et de ce que tantôt nous aimons moins le travail, et que tantôt nous aimons davantage le plaisir. Paragraphe 8. Il en est de même aussi pour l'âme. Nous regardons comme contraire au juste milieu l'habitude ou la disposition qui nous fait faire en général le plus de fautes et qui est la plus ordinaire. Quant à l'autre, elle reste ignorée de nous, comme si elle n'existait pas, et elle passe inaperçue à cause de sa faiblesse qui nous empêche de la sentir. Paragraphe 9. Ainsi, la colère nous paraît le vrai contraire de la douceur, et l'homme colérique le contraire de l'homme doux. Et cependant, il peut y avoir excès à être trop accessible à la pitié, à se réconcilier trop facilement, et à ne pas même s'emporter quand on vous soufflette. Il est vrai que ces caractères-là sont fort rares, et qu'en général, on penche plutôt vers l'excès opposé, l'emportement n'étant guère disposé à se faire le flatteur de personne. Paragraphe 10. En résumé, nous avons fait le catalogue des manières d'être morales suivant chaque passion, avec leurs excès et leurs défauts, et des manières d'être contraires, qui placent l'homme dans le chemin de la droite raison. Nous réservons de voir plus tard ce qu'est précisément la droite raison, et quelle est la limite qu'il faut toujours avoir en vue pour discerner le vrai milieu. Par une conséquence évidente, on peut conclure que toutes les vertus morales et tous les vices se rapportent soit à l'excès, soit au défaut des plaisirs et des peines, et que les plaisirs et les peines ne viennent que des manières d'être et des passions que nous avons indiquées. Paragraphe 11. Ainsi donc, la meilleure manière d'être morale est celle qui demeure au milieu dans chaque cas. Et par suite, il est clair aussi que toutes les vertus, ou du moins quelques-unes des vertus, ne seront que des milieux avoués par la raison.